Nathalie Dronneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous parler aujourd'hui de l'accompagnement du couple en approtechnologie. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau en quelques mots pour nos auditeurs?
Bien sûr, je m'appelle donc Nathalie Dronneau, je suis conseillère conjugale et familiale et j'ai mon cabinet à la maternité des L'Étoile à Aix-en-Provence. J'accompagne les couples dans leurs difficultés de couple en général et plus particulièrement en tant qu'instructrice en approtechnologie depuis 2011. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer à rappeler pour les auditeurs qui le découvrent aujourd'hui ce qu'est la naprotechnologie, en quelques mots. Et puis ensuite, je vous donnerai mon regard finalement en tant que conseillère conjugale sur l'intérêt pour le couple d'entrer dans ce protocole. Donc, la naprotechnologie, c'est une méthode qui est venue des États-Unis et qui offre une alternative à de nombreux couples en espérance d'enfants, alternative pour ceux qui ne souhaitent pas recourir à la PMA. Nous avons eu plusieurs émissions sur cette question et le docteur Delors a rappelé lors d'une émission précédente que cette démarche convient à la plupart des couples, à l'exception de certains cas extrêmes d'infertilité comme l'azoospermie, c'est-à-dire l'absence de spermatozoïdes dans le sperme, ou une ménopause précoce pour la femme, ou encore des trompes bouchées et inopérables. Voilà. En approtechnologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une restauration de la fertilité et une restauration du cycle féminin, et non pas d'une stimulation. Et d'ailleurs, dans une émission précédente, on a une instructrice, Caroline, qui a expliqué le travail de l'instructrice qui accompagne la femme pour mettre en place les observations de la glaire cervicale qui vont permettre justement ce suivi. Et ce tableau de fertilité que la femme remplit permet à la fois au couple de repérer les jours fertiles dans son cycle, ce qui peut suffire pour qu'une grossesse arrive, permet de mettre en évidence les dysfonctionnements du cycle pour permettre justement la restauration dont je parlais. Donc aujourd'hui, je vous propose de donner un regard de conseillère conjugale sur cette méthode et de vous expliquer en quoi elle est particulièrement intéressante pour le couple. Alors, je vais l'exprimer en deux points. Premier point, cette méthode soutient le couple de par son fonctionnement lui-même. Et ensuite, en deuxième point, qu'elle offre une opportunité au couple de prendre soin de lui-même pendant ce parcours. Alors, cette méthode soutient le couple. En fait, du fait du protocole lui-même, parce qu'il est demandé aux deux membres du couple de venir au rendez-vous, que ce soit avec l'instructrice ou avec le médecin. Alors pour le premier rendez-vous, notamment avec le médecin, ça paraît évident puisque les problèmes de fertilité peuvent venir soit de l'homme, soit de la femme, donc il est nécessaire de faire un bilan. Mais pour le rendez-vous avec l'instructrice qui va enseigner en fait à la femme à s'observer, ça peut paraître moins évident. Et pourtant, la présence des deux est requise. Certes, c'est la femme qui s'observe, mais l'homme est invité à tenir ce fameux tableau de fertilité. Et beaucoup de femmes disent que cela les soutient pour une plus grande rigueur de leurs observations, de savoir que le mari va demander le soir des observations, mais surtout elles sentent concrètement en fait que c'est le couple en entier qui s'investit dans la démarche. Certes, elle s'observe, mais lui a la charge de remplir le tableau et même de comprendre le code de notation. Et du fait qu'ils soient aussi invités à se rendre ensemble au rendez-vous, eh bien, cela exprime qu'ils sont tous les deux concrètement concernés par cette attente d'enfant. D'ailleurs, quand le mari s'investit peu, soit il vient peu au rendez-vous, soit il ne s'investit pas dans la tenue du tableau, souvent la femme nous dit se sentir seule, et là, il n'est pas rare d'avoir des abandons avant la fin du protocole. L'intérêt de cette participation des deux conjoints au rendez-vous, c'est que les deux conjoints sont au même niveau de connaissance. Ils connaissent au même niveau de connaissance pour le stade du protocole où ils en sont, le même niveau de connaissance pour le suivi des soins, mais aussi très concrètement, la même connaissance de la période fertile à chaque cycle. Ainsi, pour les unions, c'est en toute connaissance de cause que le couple peut décider librement de s'unir ou non. Cela évite, en effet, que la femme doive annoncer à son mari, tu sais, c'est la bonne période, ce qui est en général vécu de façon un peu lourde par les conjoints. Et donc, on constate qu'être au même niveau de connaissance rend la relation du couple plus fluide et l'intimité sexuelle plus spontanée. Certains couples témoignent aussi du fait que remplir ainsi ensemble le tableau leur permet d'aborder plus facilement la question de leur intimité. Et là, je peux vous dire qu'en tant que conseillère conjugale, finalement, dans les couples, il y a peu de communication sur cette question, bizarrement. Et on peut même parler d'insuffisance de dialogue dans nos nombreux couples sur cet aspect de leur intimité. Eh bien, en approtechnologie, le protocole permet et encourage ces échanges. Donc, on voit déjà que le protocole lui-même soutient le couple. Et en plus, dans ce protocole, médecins et instructrices ont le souci du couple. Alors, à quoi cela se voit-il? Et d'abord, parce qu'on prend notre temps. Aussi bien l'instructrice que le couple, que le médecin, je veux dire, reçoit le couple pendant 1 heure. C'est une écoute globale des personnes et du couple. Il ne s'agit pas en approtechnologie d'examiner uniquement le fonctionnement des organes de la reproduction et non plus uniquement d'examiner le cycle féminin. Nous écoutons la femme, nous écoutons le mari, nous écoutons le couple et ce qui se passe dans le couple. Nous nous intéressons à leur santé générale. Il y a aussi, de fait, un grand respect de la relation du couple. En approtechnologie, il n'y a pas de tiers dans la relation intime. L'enfant est le fruit de la relation conjugale exclusivement. Et on a tellement le souci de cette intimité que, par exemple, pour le prélèvement de sperme, on conseille quand c'est possible, ce n'est pas toujours facile, parce que les laboratoires sont un petit peu rétifs à cette méthode, mais que le prélèvement de sperme puisse se faire au cours d'une union, si on a la chance d'avoir un laboratoire qui accepte et qui soit proche de chez soi. C'est pour dire à quel point nous avons ce souci de ne pas interférer dans la relation du couple. Il y a un grand respect également des personnes. Par le temps qui est consacré, par cette écoute, les gens nous disent constater et vivre une différence importante par rapport à ce qu'ils ont vécu précédemment. Certains effectivement se plaignent dans des parcours antérieurs de ne pas avoir été écoutés, mais plutôt d'avoir subi des pressions et pour aller dans une seule direction, en général la PMA. Et dans cette approche en approtechnologie, beaucoup nous disent qu'ils sentent un respect de leurs valeurs, respect de leurs choix éthiques et notamment respect de la vie humaine dès son début. Les couples nous le disent souvent d'ailleurs, hein. Un enfant, oui, mais pas à n'importe quel prix. Enfin, on a le souci du rythme du couple. Certes, le désir d'efficacité est légitime, et nous sommes toujours très heureux, instructrices et médecins, quand un couple nous annonce une grossesse. Mais s'il s'agit d'être efficace dans cette attente et dans les soins apportés, attention à ne pas prendre le risque d'occulter le bien du couple lui-même. Il s'agit en effet d'accompagner les couples et non d'avoir pour eux à tout prix le projet d'une grossesse. Cela peut paraître étonnant, mais même lorsque le couple vient consulter pour avoir un enfant, il se peut que le désir de cette grossesse ne soit pas si clair, ou pour l'un ou pour l'autre, voire pour les deux. Là, je peux vous donner 2 exemples. Au fil des entretiens, il se dit plus clairement que l'homme qui a déjà des enfants d'une autre union, finalement, n'est pas réellement demandeur. Et ce qui était pressenti au sein du couple apparaît clairement. Et le couple arrête assez vite le protocole. Et dans un autre exemple, au bout de plusieurs entretiens, comme un cri du cœur, la femme va dire « Mais je ne suis pas obligée d'avoir un enfant ». Et elle met ainsi en évidence, en fait, les pressions familiales et sociales dont ils font l'objet en tant que jeune couple. Et elle s'autorise à exprimer que, finalement, son désir d'enfant, pour l'instant, n'est pas là. Le couple arrêtera et j'ai appris, quelques années après, qu'ils ont eu un enfant. Vous voyez, c'est important pour nous de ne rien forcer. On respecte le rythme de chacun. Il est aussi fréquent d'ailleurs d'être remercié, même si l'enfant n'est pas au rendez-vous. Le couple nous dit qu'il s'est senti écouté, respecté, et d'ailleurs repart souvent avec des éléments d'explication sur ce qui fait obstacle à la grossesse, hein, que ce soit au niveau médical, physiologique ou psychologique. D'ailleurs, un couple me le disait très clairement, c'est important pour nous de faire cette démarche pour construire notre vie de couple avec ou sans enfant. Oui, c'est important donc de dire que cette méthode, elle est dans le respect du couple, dans le soutien du couple. Et on va voir dans une seconde partie à quel point elle invite aussi le couple, elle, plus exactement, elle donne l'opportunité au couple de prendre soin de lui-même. Je vais essayer d'expliquer ça en quatre points. D'abord, la naprotechnologie offre une opportunité pour veiller à la relation au sein du couple, pour veiller à la communication au sein du couple. Les entretiens, du fait de leur durée, offrent un lieu pour dire la souffrance de l'attente de l'enfant qui ne vient pas, pour donner l'opportunité à chacun de l'exprimer et pour donner à chacun la possibilité de l'exprimer devant l'autre. Et beaucoup nous disent l'importance d'avoir cet espace et comment il est précieux pour eux. Vous savez, l'homme et la femme n'ont pas la même manière de faire face à cette souffrance de l'enfant qui ne vient pas. Et ce que je peux constater, c'est que cette différence de réaction peut être source d'incompréhension entre les conjoints. Pour illustrer, la femme va avoir plus besoin d'exprimer, de mettre en mots, tandis que l'homme va être davantage dans l'action. Alors, comme l'homme ne parle pas, la femme pense qu'il s'en fiche ou que ça lui fait rien. Et comme la femme parle, l'homme pense, trouve qu'elle ressasse. Ils ne voient pas qu'ils n'ont pas la même manière de réguler et de traverser cette souffrance. L'une a besoin de mettre en mots, l'autre a besoin d'agir. Et le fait de s'exprimer est très libérant pour chacun d'eux. Et surtout se révèle source de rapprochement en dissipant justement les malentendus et en mettant en évidence ces différences de réaction qui ne sont pas absence de réaction ou ressassement. Alors le but poursuivi là, dans ces entretiens, dans cet accompagnement, eh bien, c'est qu'à cette difficulté d'avoir un enfant, cette souffrance de l'attente de l'enfant souvent, mais ne s'ajoute pas le risque d'une mésentente dans le couple, en conséquence de cette souffrance. L'espace de parole permet cela. Donc ça, c'est un point qui est important dans cet accompagnement. Un point qui est tout aussi important, et d'ailleurs qui est pointé parfois et assez souvent quand même par les couples, c'est que en naprotechnologie, le couple, il est acteur au lieu d'être consommateur ou simplement victime. Pourquoi est-il acteur? Ben parce que c'est le couple, en fait, qui pilote en naprotechnologie, qui pilote le protocole. Souvent, je leur dis, c'est vous le pilote. Pourquoi? Mais parce que ce sont les observations que vous nous apportez qui nous permettent d'établir un diagnostic et de prévoir un traitement. Si le couple n'apporte pas ces informations de comment est la glaire cervicale tel jour, tout au long du cycle, eh bien, il n'y a pas de naprotechnologie. Et donc, ils nous le disent comme ça leur fait du bien d'agir, de ne pas être passif par rapport à cette difficulté de l'attente de l'enfant. Et ça leur permet de sortir, de leur donner une opportunité de sortir du statut de victime d'infertilité. Voilà, nous avons ce souci, nous prenons les choses en main. Et ça, c'est une spécificité de la naprotechnologie, ce couple qui est acteur. Et comme vous l'avez bien compris, les entretiens durent une heure, il y a donc un temps pour expliquer, pour dire, pour s'exprimer. Eh bien, le couple devient aussi peu à peu acteur dans la recherche de peut-être d'autres causes d'infertilité que des causes uniquement physiologiques. Cela permet d'élargir la recherche des obstacles potentiel à la fertilité. Je vous donne un exemple. Je reçois un couple qui avait perdu un enfant à 4 mois de grossesse. Et lors des entretiens, ce que je vois, c'est que le tableau est plus ou moins bien tenu, on sent une motivation assez fluctuante et est mise en évidence au fur et à mesure une forte ambivalence de la femme entre « je désire un enfant et j'ai peur de revivre cela, j'ai peur de revivre ce drame de la perte de l'enfant ». Et on voit que le suivi en approtechnologie ne peut pas être mis en place correctement, justement parce qu'il y a cette ambivalence. L'écoute, qui est un premier niveau d'écoute dans nos accompagnements, met en évidence la nécessité de prendre du temps et de mettre d'abord en place un accompagnement de type psychothérapeutique pour examiner cette ambivalence. Donc c'est important de savoir que nous, instructrices, nous travaillons en réseau, comme les médecins d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que nous envoyons vers d'autres spécialistes quand c'est nécessaire. Et donc, nous envoyons vers des psychothérapeutes, voilà, ou des personnes qui travaillent sur le corps, l'ostéopathe, etc. C'est important pour nous d'être dans cette étude, dans cette écoute globale et de travailler en réseau. Pour un autre couple, je vous donne un autre exemple. Eh bien, le tableau ne révélait pas quelque chose de particulièrement anormal. Mais au fil des entretiens, qu'est-ce qu'on entend? On entend que, comme ce jeune couple n'a pas d'enfant, il est considéré comme disponible par son entourage associatif, paroissial, familial, et il est tout le temps sollicité. Et la femme ne va pas bien. Elle est dépressive, elle est sous antidépresseur, etc. Et en fait, au fil des entretiens, ils prennent conscience que finalement, ils n'ont plus de temps pour eux. Et le mari prend peu à peu conscience de la souffrance de la femme qui aspire encore plus, c'est celle qui aspire le plus à ces moments à deux. Cette découverte va leur permettre de mettre en place tout simplement des moments de détente, des week-ends à deux, et la femme va se métamorphoser entre ça et les soins apportés aussi en approtechnologie du fait des traitements qui sont mis en place. Le couple va en fait arrêter assez vite le parcours parce que en fait il découvre aussi que la dépression de la femme avait d'autres motifs, on va dire, sur le plan psychologique, encore une fois. Donc ils arrêtent pour examiner ça de plus près. Mais à l'arrêt du suivi, le commentaire du mari, c'est « Certes, nous n'avons pas d'enfant pour le moment, mais quand je vois ma femme aujourd'hui, je vous dis déjà merci. » Et il faut dire que la transformation de la femme est vraiment spectaculaire. De toute repliée, triste, elle est devenue épanouie, souriante. Vraiment, on ne la reconnaît pas. Donc, cette écoute qui est offerte en approtechnologie permet d'entendre en fait quel est le désir profond et la capacité tout simplement hein, de chacun des conjoints à accueillir aujourd'hui un enfant. Alors, est-ce qu'ils sont prêts derrière la demande d'enfant pourtant exprimée? On peut voir aussi qu'il peut y avoir une sérieuse problématique de couple, et je dois dire qu'il est arrivé plusieurs fois que en parallèle ou en alternance, on arrête le suivi en appro et je propose, et le couple demande plus exactement, parce que c'est pas moi qui propose, le couple demande d'être accompagné sur le plan conseil conjugal pendant quelques séances pour pouvoir être soutenu. Et dans des cas extrêmes qui ont été révélés dans ce que j'ai pu constater, c'est carrément une absence de relation sexuelle. Parce que des difficultés personnelles conjugales ne permettent pas cette intimité. Évidemment, c'est un peu embêtant pour un parcours de fertilité. Et c'est intéressant de voir que ça ne peut s'exprimer qu'au bout d'un certain nombre de séances. Il faut une certaine relation de confiance pour que le couple puisse dire. Et j'avoue que dans ma pratique de conseil conjugal, ça m'est arrivé d'avoir des couples qui étaient en grande difficulté, qui n'avaient plus de relations sexuelles, et pourtant ils étaient en programme FIV. Hein. Donc ils étaient accompagnés, PMA, stimulation et tout ça. On avait juste oublié de vérifier ça, quoi. Et le quatrième point, c'est que l'on peut dire pour comment le couple prend soin finalement de lui, comment il est invité à prendre soin de lui, c'est la question de « et si l'enfant ne vient pas ?» C'est vrai que nous, en aprotechnologie, on est là pour aider la venue d'un enfant, pour la favoriser, pour soigner le cycle, comme je le disais tout à l'heure. Et on va évidemment être très heureux quand le couple nous annonce une grossesse. Pour autant, quand nous parlons, on pourrait dire, des résultats, entre guillemets, de la naprotechnologie, c'est important d'avoir le souci de répondre autrement que par statistiques. Certes, les statistiques sont là, et elles sont plutôt bonnes, pour susciter une grossesse pour les couples en désir d'enfant. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais juste vous dire une petite réflexion qui m'était faite à la maternité de l'Étoile où je travaille. Savez-vous, enfin, vous ne pouvez pas savoir, mais depuis que nous sommes en crise, en pandémie, les couples semblent, enfin, certes, l'expérience qu'on a à la maternité de l'Étoile, c'est qu'il y a moins d'enfants qui sont nés par PMA à la maternité. Par contre, il y a un certain nombre d'enfants qui sont nés de couples qui étaient avant en parcours PMA, mais qui ont eu leur enfant naturellement. Et ça, ça pose question. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que il y a quand même aujourd'hui un côté un peu systématique à recourir à la technique, à cette merveilleuse d'ailleurs technique, hein, peut-être, pour certains couples évidemment, mais que l'enfant, avec un peu de patience, un peu de temps, d'accompagnement, peut-être une opportunité pour faire apparaître tout ce que j'ai dit précédemment, eh bien l'enfant serait venu naturellement, puisqu'on constate qu'il vient naturellement, c'est des couples qui pourtant était un protocole PMA. D'ailleurs, nous avons, nous aussi, des naissances et des grossesses chez des couples qui ont eu auparavant recours à la FIV, avec succès ou sans succès d'ailleurs pour la FIV. Pour autant, le protocole naprotechnologie, je pense, doit être apprécié en fonction de tout ce qu'il apporte en dehors même de ce succès d'avoir l'enfant. Du fait de ce que j'ai dit précédemment et du fait aussi de ce que je vais dire là maintenant, c'est-à-dire que d'autres interrogations sont rendues possibles par ces temps d'écoute offerts par le parcours. Certains vont d'ailleurs exprimer, par exemple, que la vocation de leur couple réside peut-être dans un autre type de fécondité que la fécondité biologique. Et une femme me disait cette semaine: j'ai fait le chemin d'accepter que nous n'aurons peut-être jamais d'enfants. Et elle ajoute, et je m'interroge, comment me donner autrement? Et j'avoue que j'ai trouvé ça très beau. Comment me donner autrement? C'est-à-dire, comment exprimer autrement cette fécondité et dans le cheminement de ce couple, le jeu était en train de devenir un peu un nous, c'est-à-dire que la prise de conscience du mari est en train de se faire sur le « peut-être il n'y aura jamais d'enfant » et progressivement pour arriver à « et nous, notre couple, quel projet pour notre couple et quelle manière autre d'exprimer notre fécondité ?» Alors là, évidemment, il s'agit pour l'accompagnateur, l'instructrice ou le médecin d'être extrêmement prudent. Il s'agit en effet de permettre ces interrogations et à la fois de résister à la tentation de donner nous-mêmes des pistes. Quand on voit le couple en souffrance, qui est en train de prendre conscience que peut-être il n'y aura pas d'enfant, nous pouvons, comme toute personne de son entourage souvent, être tentés de donner des solutions, donner des pistes. Par exemple, parler d'adoption. C'est très mal vécu par les couples et à juste titre. Pourquoi? Parce que c'est brutal, c'est violent, c'est beaucoup trop tôt si jamais ça doit être leur chemin. Ce n'est pas forcément du tout leur chemin. D'autres fécondités sont possibles. Et c'est souvent vécu par le couple comme une minimisation, voire une négation de la souffrance. Oh ben, il y a qu'à, il y a l'adoption, il y a ci, il y a ça. Et ce qui me paraît encore pire, c'est quand le couple comment dire, entend un discours du type que l'enfant n'est pas indu, n'est pas indu, c'est-à-dire nous sommes dans l'accueil de l'enfant. Évidemment, ils le savent, et d'ailleurs nous le disons nous-mêmes en approtechnologie, même quand tout semble fonctionner, l'enfant n'est pas là, et c'est le mystère de la vie. Ou quand ça ne fonctionne pas si bien que ça, l'enfant arrive, surgit, c'est aussi le mystère de la vie. Bien sûr, c'est en filigrane dans notre accompagnement. Mais attention à ne pas être dans un discours moralisateur qui consisterait à dire quelle attitude est la bonne par rapport à cet accueil de l'enfant qui vient ou qui ne vient pas. Parce que alors le risque à ce moment-là, c'est que les couples, en plus de la souffrance dans laquelle ils sont de ne pas avoir d'enfant, eh bien, ils se sentent regardés comme n'ayant pas le bon comportement, n'ayant pas la bonne attitude par rapport à l'accueil de la vie. Et là, il y a évidemment un risque majeur de les heurter et voire de les culpabiliser en plus de la souffrance qu'ils ont de l'enfant qui ne vient pas. Donc, évidemment, il s'agit d'accompagner la réflexion du couple, oui, bien sûr, mais d'éviter de le précéder dans ses prises de conscience, tout en les rendant possibles. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le couple, sur le constat, tout simplement, en tant qu'instructrice. Alors, toutes les instructrices ne sont pas conseillères conjugales, bien sûr, mais dans les protocoles, il y a de toute façon cette heure d'écoute, il y a de toute façon cette sensibilisation à la communication au sein du couple, cet espace pour dire sa souffrance, et de toute façon, ce travail en réseau. Et donc, effectivement, les instructrices qui ne sont pas psychologues ou conseillères conjugales renvoient sur les spécialistes proposent quand la demande est suffisamment claire au niveau du couple, évidemment, pour accompagner, compléter ce parcours. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir chacun conscience de ses limites et de pouvoir envoyer sur d'autres spécialistes. Nous travaillons tous en réseau. Mais ces prises de conscience sont rendues possibles dans le parcours de la protechnologie grâce à cet espace d'écoute. En conclusion, pouvons-nous dire que l'approche en approtechnologie, on l'a vu dans les séances précédentes, propose une véritable alternative dans le traitement de l'infertilité, puisque, encore une fois, elle propose une restauration du cycle et non pas une stimulation du cycle. Mais c'est également une opportunité de poser un regard différent sur ces questions de fertilité. Il y a là pour le couple une véritable opportunité d'être accompagné, d'être entendu, d'être pleinement acteur dans ce parcours, dans sa démarche, et d'amorcer ou de poursuivre la recherche de sa vocation propre avec ou sans enfant.
Nathalie Droneau, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les causes qui peuvent être autres que physiologiques et notamment qui touchent à la psychologie. Je suis en train de penser en fait à une famille que j'ai connue où la fratrie, aucun enfant de la fratrie n'avait lui-même d'enfant car leur maman avait été on va dire négligente avec eux. Et elle-même avait été confiée à une famille d'accueil parce que sa propre mère avait été également négligente et les services sociaux étaient intervenus. Est-ce que justement quand il y a un passif familial de ce type-là, est-ce qu'il, parmi les causes psychologiques, pardon, est-ce qu'il peut y avoir justement cette crainte de reproduire un schéma familial?
Oui, effectivement, quand on écoute les couples, d'ailleurs, certains arrivent dans le parcours en approtechnologie, on le voit bien avec une certaine, comment dire, ambivalence, hein, je l'ai déjà dit, hein, ces causes peuvent être de diverses natures, hein, familiales, personnelles. Ce n'est pas nous, évidemment, qui allons les traiter dans ce cas-là, puisque nous renvoyons sur des spécialistes, mais surtout, on ne va pas les traiter et même pas évoquer la piste de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on part du discours du couple qui dit « Écoutez, dans ma famille, voilà ce que j'ai vécu. Vous pourriez nous raconter l'histoire que vous venez de dire. Est-ce que je pense que… » Alors, évidemment, quand on nous dit ça, on dit bah, « Écoutez, c'est vous qui amenez ça, effectivement, et vous pensez que ça peut avoir un impact sur votre fertilité, qu'en pensez-vous vous-même ? » Et de fil en aiguille, les aider à prendre conscience que si ils ont eux-mêmes cette interrogation pour eux-mêmes, ça peut être intéressant d'aller l'examiner avec effectivement un thérapeute adapté pour voir si effectivement quelque chose peut être dénoué dans leur propre histoire et peut permettre in fine, de débloquer quelque chose pour la fertilité. On ne peut évidemment pas garantir que ça va fonctionner, entre guillemets, mais effectivement, quand la personne arrive avec une interrogation, une problématique personnelle ou familiale, eh bien, nous accompagnons cette prise de conscience et effectivement, nous accompagnons pour qu'elle puisse aller vers quelque chose qui peut être de nature à débloquer, effectivement. Hein.
Alors, si j'ai bien compris, et c'est quelque chose qu'on a vu également dans des émissions précédentes, si j'ai bien compris, l'accompagnement en approtechnologie permet de mieux connaître le fonctionnement de la femme. Est-ce que de la même manière que la approtechnologie va aider un couple à réaliser un désir d'enfant, est-ce que de la même manière, après avoir eu un enfant, cette même méthode permet justement de maîtriser un petit peu la fertilité.
Oui, tout à fait. Vous avez eu une émission avec Philippine, qui a une autre instructrice, qui expliquait que cette méthode, puisqu'elle permet de repérer la période fertile, rend aussi le couple responsable de sa fécondité. Le couple qui souhaite espacer les naissances ou qui pense avoir le nombre suffisant d'enfants va réserver ses unions en période infertile. Et effectivement, le système d'observation qu'on appelle le système d'observation fertility care utilisé dans la naprotechnologie permet ce repérage des jours fertiles ou infertiles et permet effectivement au couple d'avoir un outil pour être responsable de sa fécondité, que ce soit pour choisir de concevoir ou pour choisir de s'unir sans qu'une de réserver leurs unions aux périodes infertiles. Parce qu'ils souhaitent effectivement espacer les naissances, parce que voilà, c'est leur projet de vie, par respect, la fatigue de la mère, et toutes les autres raisons d'ailleurs qui peuvent faire que la régulation des naissances soit nécessaire. Alors, c'est une méthode de l'intérêt, cette méthode en fait, si vous voulez, c'est qu'elle est complètement réversible. C'est ce qu'on appelle réversible, c'est-à-dire cette méthode peut être utilisée selon le projet d'enfant. Et si du jour au lendemain, le couple change d'avis, eh bien c'est possible. Alors que par exemple, dans d'autres moyens contraceptifs, il peut être conseillé, notamment en cas de prise de pilule, tout ça, plus ou moins conseillé peut-être d'attendre un cycle ou deux. Alors, je ne dis pas que ce soit catastrophique si on n'attend pas, mais ça peut être conseillé. Voilà. Là, c'est complètement réversible.
Alors, je crois que c'est quelque chose que nous verrons prochainement avec le docteur Bénédicte Delors, donc la comparaison entre naprotechnologie et PMA. Moi, je voudrais revenir sur un mot que vous avez beaucoup répété au cours de la première partie de l'émission, c'est le mot « écoute ». Je crois que c'est vraiment une particularité. On verra les particularités, entre guillemets, techniques avec le docteur Delors. Mais l'écoute en approtechnologie est quelque chose d'important, chose qu'on ne retrouve peut-être pas forcément dans le recours à la PMA, où c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus technique.
Oui, alors c'est vrai que je ne veux pas non plus caricaturer les parcours PMA, mais il est évident qu'il n'y a déjà pas cet espace-temps. Les rendez-vous sont beaucoup plus rapides. Mais c'est vrai aussi que je dois reconnaître que quand les couples ont eux-mêmes suivi déjà un parcours PMA et qu'ils viennent vers nous, ils sont vraiment très surpris de voir comment ça se passe. Justement, d'avoir cet espace de parole, de voir qu'on écoute. Et souvent, ils sont surpris aussi du fait que on soit dans une recherche, et ça c'est peut-être le docteur Delors le dira davantage, mais dans une recherche de même de dysfonctionnement physiologique dont on leur a jamais parlé. Et ils pensent qu'on a fait le tour de la question. Et en fait, nous, quand on les écoute, on se rend compte qu'ils sont surpris qu'on va regarder tel ou tel aspect même du cycle, parce qu'ils pensent avoir fait le tour de la question, même sur le plan physiologique. Sur le plan de, alors que ce n'est pas le cas, sur le plan effectivement de l'écoute, les personnes nous disent, comme je reprends des mots que j'entends, hein, elles ont le sentiment, dans cet accompagnement, d'être accueillies comme des personnes et non pas comme des dossiers. Voilà. Voilà ce qu'on entend. Et je me souviens de cet accompagnant démarré avec un couple. Et je sais pas, pendant l'entretien, je les vois qui sourient, qui rient même. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Et donc j'arrête et je dis, mais ça vous fait sourire, ça vous fait rire. Et en fait, je dis, mais on est tellement contents. On est tellement contents parce que vous nous expliquez comment ça fonctionne, le cycle féminin, mais on explique également comment ça fonctionne chez l'homme, hein, j'ai oublié de le dire, c'est pas parce que on s'intéresse au cycle féminin qu'on n'explique pas dans la première séance comment la spermatogenèse, hein, c'est-à-dire la fabrication de spermatozoïdes. Ils s'émerveillent, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent, ils peuvent dire ce qu'ils ressentent, ils se sentent écoutés, bref, ils étaient tellement contents que ça les faisait rire. Et c'était un contraste important par rapport à ce qu'ils avaient vécu précédemment, parce qu'effectivement, ils venaient d'un parcours PMA.
Alors, Nathalie, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose par rapport à notre thème d'aujourd'hui?
Par rapport au thème d'aujourd'hui, évidemment, je suis particulièrement sensible en tant que conseillère conjugale, effectivement, au fait qu'on puisse offrir un espace aux couples qui les respecte autant, qui respecte autant leur intimité, qui respecte, non seulement qui respecte leur intimité, mais qui leur permet de faire un chemin de couple. Voilà, vraiment, un chemin de couple. Ces protocoles durent 18 mois jusqu'à 2 ans parfois, et c'est vraiment une opportunité pour avancer dans leur projet en tant que couple.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Dronon. On vous retrouvera pour une prochaine émission.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci.